Oyez, oyez, le fou du roi.
Le fou du roi. Non. Moi, je connais qu'un de fou, c'est le fou de Bassan. Vous savez, le... Vous savez ouais. Merci Dominique, il y en a au moins
silence.
Une.
Silence. Le roi approche. Oyez l'éloge du roi et de la reine.
Soyez rassurés, habitants du royaume de Lem, car votre roi, le grand Roger Tout, descendant du valeureux Richard Cœur de Lion, a souci du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Tremblez, riches et propriétaires, car votre roi, Roger Tout, descendant indirect du terrible Cromwell, appliquera sa ferme justice du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, du coucher jusqu'au lever du soleil. Par contre, soyez stupéfaits. Stupéfaits, effectivement, vous serez par la grande beauté de la, et la sagesse orientale de la reine helvétique Dominique III, descendante indirecte de Sicile, impératrice.
Le roi!
Qu'est-ce que c'est? Le roi n'est pas là? Ben non. Ah, quelle entrée en matière. Mais au fait, qu'est-ce qu'on attend? On attend un roi? On attend... C'est un prince que nous souhaitons? Ou bien c'est un grand personnage? En tout cas, on a Roger et Dominique. Qui aujourd'hui, c'est pas leur sacre, mais c'est leur culte d'installation. Puis je me suis dit, enfin, je me suis posé une question, puis ça m'a travaillé toute la semaine. Si Roger n'est pas un roi, si Dominique n'est pas une reine, s'ils ne sont pas des personnages très importants, très très importants, parce qu'ils sont importants, mais moi je ne vais pas aller dans cette explication, je n'y arriverai pas à m'en sortir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends d'un pasteur? Alors toute la semaine j'ai réfléchi, mais... Vous faites souvent comme moi, quand vous n'arrivez pas à répondre, vous chargez vos amis de la même question, tant qu'à faire, autant être plusieurs à réfléchir. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai demandé à Claude Heiniger de réfléchir. Il s'est mis tout au fond, il a cru que je ne le verrais pas, mais...
L'ami m'a donné deux phrases à lire. Donc je vais être le plus précis possible. Avec les attentes, on peut enfermer quelqu'un. Alors ce que j'attends, c'est quelqu'un qui m'aide à cheminer avec le Christ et qui nous aide en tant que communauté à cheminer pour être plus proche de lui.
Bravo Claude, contrat respecté. Merci, tu me fais cheminer dans ma réponse. Mais je me suis dit, c'est une personne d'un âge mûr, mais pourquoi pas... Une personne plus jeune. Alors j'ai demandé aussi à Sandrine de réfléchir à la chose, à cette question.
Ah voilà. Oui, je me suis dit que pour moi, un pasteur, c'était pas quelqu'un qui était en-dessus de nous. C'était pas quelqu'un en-dessus de l'Église et qui est plus proche de Dieu, etc. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, je pense, a reçu un désir de la part de Dieu, une envie... et qui arrive à diriger son Église dans cette envie, en fait, dans l'envie de Dieu, quelque chose comme ça.
Merci bien. Jean-Charles, c'est toi, en fait, qui m'as initié cette question il y a une semaine. Et tu m'as fait un beau cadeau avant de partir, quand tu étais venu, ou le téléphone que tu m'as fait. J'ai réfléchi cette semaine, donc j'ai... poser cette question à Claude et à Sandrine, mais maintenant, je te la pose pas, mais tu as 10 minutes.
Alors bonjour à chacune et chacun, et merci de m'associer à ce temps d'installation de Sa Majesté. de votre frère pasteur. Si je fais ce geste, qu'est-ce que je fais? J'accroche la ceinture de sécurité. Effectivement. Et j'aimerais ce matin, en parlant de sécurité, renforcer, dans un sens, celle de votre pasteur, mais aussi la vôtre personnelle. Récemment, j'écoutais à la radio l'émission de Jean-Marc Richard, Les Petits Zèbres. Vous connaissez. Il demandait à des ados ce qui était prioritaire. Est-ce que c'était les problèmes d'économie, les problèmes de sécurité ou les problèmes d'écologie? Ils étaient assez empruntés parce qu'en fait, ils estimaient que les trois étaient urgents. Dans la hiérarchie des besoins humains, connue sous le nom de la pyramide de Maslow, nous trouvons 5 degrés. Le premier degré, c'est celui de la survie. Pouvoir manger, boire, dormir, s'habiller. Mais tout de suite après vient le deuxième degré, qui est la sécurité. Vivre dans un lieu non menaçant, avoir un travail, avoir un logement stable, pouvoir s'occuper de sa santé. C'est pour ça que la France a créé la sécurité sociale, tellement connue, non seulement par son abîme financier, qu'on l'appelle tout simplement la Sécu. Avec la Sécu, on a tout dit. Et puis ensuite, nous avons toutes sortes d'assurances privées, depuis les plus nécessaires aux plus périphériques, comme certaines assurances pour les animaux de compagnie. Mais même bardé d'assurances, on peut vivre dans la peur, voire la peur que le ciel nous tombe sur la tête. Maintenant, le contraire. J'ai lu dans le dernier numéro du petit journal Chrétien Ami d'Israël un témoignage de Frank et Karen Selch. Je ne les connais pas personnellement, mais ils sont souvent en Israël. Et quand on demande à Karen si elle n'est pas inquiète pour leur vie, elle répond, pour moi, Israël est le pays le plus sûr du monde. Vraiment. Avec ces attentats encore possibles, bien qu'heureusement ces temps il y en a moins, Israël n'est pas, pour moi, le pays le plus sûr du monde. Mais il l'est pour Karen. Et pourquoi? Parce qu'elle a une certitude, le lieu le plus sûr est toujours le lieu où Dieu nous veut. Et la Bible lui donne raison. Quelques versets. Proverbe 1, verset 33. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. La sécurité dans sa demeure. J'ai entendu récemment qu'à Genève, l'absence d'appartements vacants était une source, un facteur d'insécurité non négligeable, en particulier pour les jeunes. Mais la sécurité dans sa demeure, comme dit ce proverbe, est bien plus que celle de mon logement, avec ou sans système de sécurité. Elle s'étend à ma sécurité intérieure, ma demeure intérieure, mes pensées, mon cœur, quelles que soient les circonstances. Quand on lit certains récits bibliques, il y en aurait plusieurs, mais je vais prendre qu'un exemple, on reste frappé de la sérénité dans les difficultés de ceux qui écoutent Dieu. On a lu « Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure ». Par exemple, Daniel, lorsqu'il répond au roi « Ohé, je suis toujours là depuis le fond de la fosse aux lions après une nuit passée au milieu de lions affamés qui ne sont pas gênés de croquer les suivants. On est frappé de cette sérénité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress. Mais dans ce récit qu'on trouve dans Daniel 6, on peut lire que le roi qui avait donné l'ordre de jeter Daniel dans la fosse aux lions n'a pas fermé l'œil sur son lit de toute la nuit. Alors dites-moi, qui avait le plus de sécurité dans sa demeure? La sécurité de Daniel, c'était de rester là où Dieu le voulait, c'est-à-dire, selon son habitude, de monter dans une chambre de prière, la chambre haute, où il nous est dit que 3 fois par jour, à genoux, il louait et priait son Dieu, alors que le roi avait donné l'ordre d'être lui seul roi adoré. Et quand ses ennemis sont venus le saisir, là, dans son lieu de prière, il n'a pas résisté. Même s'il savait que le lieu suivant serait la fosse aux lions, où j'imagine, il a certainement pensé qu'il serait bel et bien croqué. Et cela aurait pu lui arriver, comme pour tellement d'autres martyrs jetés aux fauves à Rome devant Néron, ou bien comme d'autres chrétiens encore aujourd'hui qui sont mis à mort pour leur foi. Proverbe 10:9, celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité. Et cette sécurité n'est rien d'autre que celle de se savoir dans le lieu où Dieu nous veut, pris en charge par lui, quoi qu'il arrive, même dans la gueule des lions, même dans la destruction du corps. Dans le psaume 16, versets 8 à 10, je lis, « Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Vous remarquez que tous ces textes commencent par la relation. Écoutez, contemplez, être à côté de Dieu. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, poursuit David, mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras même pas mon âme au séjour des morts. Il y a 2 semaines, j'ai demandé à quelqu'un dans notre église des nouvelles de sa mère. Cette personne m'a répondu, « Oh, elle ne va pas bien. Elle est hypochondriaque. » Moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai compris que ça n'avait rien à voir avec un hippodrome ou avec des chevaux, mais que c'était une peur obsessionnelle pour sa propre santé. Elle passe son temps à écouter ses symptômes, à s'écouter. Au contraire, « Celui qui m'écoute, dit Dieu, aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. » Ça ne veut pas dire sans malheur et sans épreuve, mais sans cette crainte permanente du malheur. Je lis un dernier texte. C'est une prophétie sur Benjamin. Elle dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, l'Éternel l'abrite pour toujours et demeure au milieu de ses épaules. Dieu au milieu de ses épaules. Dieu au milieu de mes épaules. Moi, au milieu de mes épaules, j'ai ma tête. Dieu doit demeurer là, dans le siège de ma tête, dans le siège de mes pensées. Mais ce n'est pas seulement comme ça que je peux le lire, l'entendre, on peut l'entendre de plusieurs façons. Je pense aussi que cela peut dire, au milieu de ses épaules, Dieu le tient droit. Pas raide, mais droit. Il appuie sa nuque. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour Roger et Dominique. D'abord pour Dominique et Roger, familialement, Mérin est le lieu où Dieu vous veut aujourd'hui. C'est le lieu le plus sûr pour vous. Vous pouvez être en sécurité émotionnellement pour l'avenir de vos enfants. Quant au logement, Dieu s'est déjà montré sécurisant. Et puis Roger, dans ta théologie et ta compréhension de la Bible, tu peux évoluer en sécurité. Tu peux comprendre demain des textes différemment de la manière dont tu les comprends aujourd'hui, parce que dans la proximité de Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Il va peut-être même te libérer et te permettre de libérer d'autres de fardeaux et de principes qui se sont peu à peu imposés. Troisièmement, dans le leadership de l'Église, tu peux innover en sécurité. Comme vos cultes expérimentaux que j'ai vus, ne t'arrête pas d'oser. Souviens-toi simplement que Dieu est fidèle, mais il n'est pas fixe. Et quand on l'écoute attentivement, il se montre créatif. Créatif envers nous, nous permettant d'être créatifs envers les autres. Et puis enfin, relationnellement, tu vas aimer chacun, tu vas parler à chacun avec douceur et une légère intonation britannique sympathique. Mais tu peux déplaire aussi en toute sécurité si tu parles avec simplicité et affection de ce que tu penses avoir compris de Dieu, parce que ta sécurité n'est pas d'abord dans l'acceptation des autres, mais dans la proximité de Dieu que tu veux servir. Le lieu le plus sûr, frères et sœurs, c'est toujours le lieu où Dieu nous veut. Que l'Éternel demeure aussi au milieu de tes épaules et qu'il demeure aussi au milieu des nôtres. Amen.
Tête au milieu des épaules. J'essaye, Jean-Charles, de trouver une image. Roger, tu es donc parmi nous depuis une année, donc tu as déjà osé, tu as déjà pris des risques, tu as déjà fait plein de choses, mais le fait que tu sois là a mis pas mal de monde en route. Il y a eu des commissions, des sous-commissions, des dîners de commission, des dîners de sous-commission, des réflexions, des demandes, des formulaires, des dossiers. Mais il y a aussi ces personnes. Et je souhaiterais, pendant ce moment qui vient, justement, entendre quelques-unes de ces personnes. Je vous propose de partir de notre communauté. Voilà. Et nous allons écouter Michel, le président du Conseil de l'Église évangélique de Mérin. Michel.
Les évangéliques ont bien changé. Avant, on leur parlait de pasteurs, ils dégainaient leur Nouveau Testament, ils brandissaient le sacerdoce universel. Et voilà, non seulement que maintenant, ils nomment un pasteur, mais en plus, ils l'installent. Et dites-moi, où est l'auguste siège? Où est la vénérable stalle en chêne sculptée dans lequel s'assiera le pasteur parmi ses pairs? Je ne vois rien. Mais vous n'avez rien compris, un pasteur, ça s'installe comme un programme informatique. D'abord, on importe les fichiers. C'est pour ça que suivant d'où vient le pasteur, il peut avoir un petit accent. Ensuite, on clique sur la fenêtre importée. Voilà, nous allons pouvoir travailler avec Roger Sewell. Et ensuite, dans les programmes informatiques, vous devez donner votre accord aux conditions générales d'utilisation. Il y a une succession d'écrans. Suivant, suivant, suivant. Et puis, c'est marqué, si vous êtes d'accord avec ce qui a été mentionné dans les 18 écrans précédents, cliquez sur la case OK. C'est une forme de contrat. Et dans les relations entre un pasteur et une église, il y a aussi un contrat. Un contrat de travail avec, heureusement, un peu moins de pages. Mais après, tous ces fichiers que vous avez importés, c'est des zip. Alors, il faut les décompresser pour qu'ils soient opérationnels. Eh bien, le pasteur, c'est juste le contraire. Lui, il est opérationnel tout de suite. Il enregistre des informations, il noue des relations, il crée des contacts, il enseigne, il prêche. Il fait son job. Mais tout ça, tout l'environnement est nouveau. Alors, la mémoire, elle chauffe. Il y a beaucoup de choses à intégrer, à assimiler. Alors, au bout d'un moment, il a, lui, besoin de décompresser. Idéalement, une semaine à la montagne pour dormir. Alors, si je résume, le programme informatique est installé après la décompression des fichiers. Mais le pasteur, lui, fonctionne tout de suite avant même de décompresser. Alors, pourquoi on l'installe seulement aujourd'hui? On le réinstalle, peut-être. Il y a eu un bug? Non, pas du tout. Si on veut, c'est un peu une question de version, comme pour les programmes. Mérin, c'est le troisième engagement de pasteur de Roger Sewell, après Villefranche et le Locle. On a, en quelque sorte, commencé à travailler avec Roger V3.0. Vous voyez? Et puis, les termes du contrat de travail spécifiaient qu'au bout de la période d'essai légal de 3 mois, il fallait confirmer l'engagement réciproque. Alors, en décembre 2009, le conseil et Roger, nous avons fait le point et jugé que la collaboration fonctionnait bien. Et on a décidé de poursuivre. C'était un premier arrêt. On pourrait nommer cette nouvelle étape Roger 3.1. Et aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on update notre engagement. En français, on dit, aujourd'hui, on fait une mise à jour de notre engagement. Faire une mise à jour, c'est d'abord regarder en arrière pour voir un peu qu'est-ce qui a été possible, qu'est-ce qui a été fait. C'est mettre en lumière, voilà ce qu'ensemble on a pu vivre, ce qu'ensemble, église et pasteur, on a pu faire. Qu'est-ce qu'on a appris les uns des autres, comment ça s'est passé. Et puis faire une mise à jour, quand on décide de la faire, c'est regarder aussi en avant. C'est vouloir découvrir nos potentialités respectives, c'est désirer une augmentation de notre performance commune, comme avec un programme. On veut, si on update le programme, si on fait une nouvelle mise à jour, c'est qu'on veut plus. On veut ensemble augmenter notre découvrir nos potentialités et augmenter notre performance. Et c'est dire, c'est se dire, ça vaut le coup, continuons ensemble. Alors aujourd'hui, nous installons Roger Sewell. C'est une manière de dire, de lui dire, mais aussi de nous dire à nous-mêmes, notre engagement à travailler ensemble. Nous désirons travailler ensemble pour exprimer dans l'Église et dans la société la beauté, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, version 3.2, je clique OK.
Merci pour cette leçon d'informatique. On prend un peu plus d'altitude. Vous savez ce que c'est? Quelle ville c'est? C'est Mérin. Effectivement, c'est Mérin, vue d'avion. Un peu flou parce que le hublot était sale. Mais on prend de la hauteur et Bernard, tu viens maintenant, tu es le pasteur employé de l'EPG et tu es dans la région Mandement, c'est cela? Rhône-Mandement. Pas oublier Vernier, qui est un peu plus à droite ou à gauche, je ne sais plus, si tu veux bien venir.
C'est vrai, depuis bientôt 7 ans, je suis aussi à la paroisse protestante de Mérin, qui se trouve logée au centre paroissial écuménique de Mérin, qu'on appelle CPOM. Alors, c'est au nom de tous ceux qui sont dans ce CPOM que je vous salue. D'abord au nom de la paroisse protestante, mais aussi au nom de la paroisse catholique de la Visitation, Claude Wilhelm est là. Du côté protestant, il y a de nombreuses personnes, dont le président du conseil aussi. Mais j'aimerais aussi vous saluer au nom des collègues de la région. Jean-Daniel Schneeberger est présent, Bertrand Barral. Est-ce qu'il y en a un autre? Parce que je me suis assis et puis j'ai pas vu. Mais non. Eh bien, au nom de toutes ces personnes et lieux d'église, je vous salue, surtout dans l'esprit de faire mémoire, dans un premier temps, de la collaboration. Ça fait plus d'une génération qu'elle existe ici à Mérin, cette collaboration. Elle est agréable et bonne. Elle est stimulante aussi. Nous avons à nous apporter beaucoup les uns et les autres. Alors, c'est sur ce thème de la rencontre que j'avais envie de dire quelques mots. D'abord pour dire qu'il y a des rencontres habituelles. Aujourd'hui, elles commencent au culte, elles se continuent avec un repas. La plupart du temps, les rencontres dans la Bible passent à table, un moment plus ou moins long. Ensuite, il y a des rencontres parfois imprévues, que ça soit en famille ou pas. Pour moi, c'était imprévu il y a encore 2 mois que hier, j'aurai le mariage de ma deuxième fille. Alors, je suis présent physiquement, mais j'ai la tête encore un peu hier. Il y a des rencontres imprévues aussi avec des amis, même des fois avec des inconnus. Et l'expérience montre que quand on est accueillant, si on offre l'hospitalité, souvent, on reçoit plus encore que ce qu'on a offert. Donc, la rencontre est quelque chose de formidable. La Bible nous donne beaucoup d'histoires de rencontres. Parmi toutes celles qui ont eu lieu, nous en avons quelques-unes dans cette Bible. Par exemple, dans le Nouveau Testament, pour Jésus. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'à chaque rencontre avec Jésus, quelque chose de libérant s'est passé. Pas toujours la même chose. Parfois, c'est un souffle nouveau. Parfois, c'est une remise debout. Mais quelque chose de libérant s'est passé dans cette rencontre. Alors, ces histoires nous touchent encore aujourd'hui, parce qu'elles parlent de l'essentiel, non pas dans le sens qu'il faut imiter, je dirais de manière très précise, ce qu'on a compris d'avant, mais être simplement disponible à une rencontre. Alors je souhaite que nous ici, enfin vous en premier de l'Église évangélique, mais nous aussi, n'ayons pas trop peur de rencontrer Roger, qu'on se laisse aller, même s'il est encore un peu inconnu de quelques-uns, et que ainsi, avec cette rencontre, quelque chose de Dieu puisse entrer dans nos relations et dans nos collaborations. Et puis, comme tu viens de ce pays qu'on appelle Grande-Bretagne, que je connais un peu, entre autres dans quelques coins d'Écosse et d'Irlande, et là j'ai trouvé une fois tout au nord de l'Écosse une petite prière, oh, elle existe ailleurs, mais j'ai trouvé là, et j'avais envie de vous la laisser maintenant. Elle est, ceux qui viennent à mon bureau, elle est affichée sur la porte. Seigneur, donne-moi ton courage pour changer les choses qui peuvent l'être, ton calme pour porter celles que je ne peux changer, et ta lumière pour faire la différence entre elles.
Merci Bernard. On s'élève encore. C'est quoi ce pays biscornu ? La Suisse romande ou la Romandie, on dit aussi. Hein? Donc la Suisse romande, on s'élève. Et là, notre église appartient à une fédération qui a des églises un peu partout dans cette Romandie. Et donc j'inviterai la personne qui est dans la commission des ministères et qui a travaillé avec notre communauté, donc Françoise Vallet. Je te laisse la place.
Bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être là. Vous avez les salutations de la commission des ministères de l'Afrique qui a eu beaucoup de plaisir il y a maintenant plus d'une année en arrière de cheminer un petit peu avec votre commission de recherche de pasteurs. C'était une joie avec vous et d'autre part avec Roger et Dominique. Voilà. On était très réjouis d'apprendre que cette approche a abouti à l'avenue de Roger et Dominique ici. Et nous souhaitons à Roger, Dominique et leurs enfants un temps richement béni dans ce lieu qui leur est accordé maintenant au milieu de vous. Des défis pour toi, Roger, il y en a en tant que pasteur, mais aussi à vous tous en tant qu'Église qui est témoin du Christ dans cette région. Vous avez accueilli Roger comme votre berger et c'est super. J'ai entendu tout à l'heure qu'est-ce que vous attendez d'un pasteur, c'est génial. Mais il y en a quand même parfois qui attendent d'un pasteur un peu un superman, un super berger. Mais on ne peut pas attendre d'un pasteur l'impossible. À l'instar de Superman ou Batman, vous n'avez pas un Sevelman. Il ne répondra pas à toutes vos attentes. Est-ce que pour être un bon pasteur, Roger doit prier 12 heures par jour, ou bien jeûner plusieurs fois 40 jours par année, ou bien guérir tous les malades, ou bien encore être au top de la forme toujours? Mais non, c'est pas ce que Dieu lui demande. Mais Dominique et Roger, vous êtes appelés à être tout près de Dieu. On l'a entendu tout à l'heure. Écoutez Dieu. Recevoir son amour afin de pouvoir le partager. Cet amour n'est pas seulement leur mission, mais c'est aussi la vôtre en tant qu'Église. Comme Christ nous a donné un commandement nouveau, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, que tout chacun nous connaît, mais qu'il est bon de se rappeler. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Car c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un commandement qui semble tout simple, mais parfois c'est un grand défi en fonction de ce qu'on vit personnellement ou ce qu'on vit en Église. Mais que Dieu vous soit soutien à vous, couple pastoral, et à vous, Église de Mérin, que vraiment cet amour de Christ puisse resplendir dans cette ville. Voilà.
Merci Françoise. On va s'élever un petit peu encore. Là, c'est la Suisse. Responsable des évangéliques suisses. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de l'inviter. On monte encore, tant qu'à faire. L'Europe, bah là, j'ai carrément pas osé. Bon, on y va, allez. Ah, lui, il n'a pas besoin de l'inviter. Il n'a pas besoin d'invitation, il est déjà là. Vous savez de qui je parle? De Dieu. Eh oui, il a le monde dans ses mains, on chante. Bah, il est là, il était là même avant nous. Mais je crois qu'il faut pas monter si haut. On va redescendre sur le plancher... Comment tu disais, Roger? Plancher des vaches. Je t'invite, ou le couple pastoral, ou toi. pour clore ces allocutions.
D'abord, merci à chacun d'être présent ce matin. On doit présenter la famille, il me semble, donc... Raymond, on peut présenter la famille? Voilà. Si. On n'est pas là au grand complet. Je crois qu'il y a un deuxième cliché également. Voilà. Donc, Esther n'est pas parmi nous ce matin, mais elle vous salue tous très bien. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Si je suis dans un ministère pastoral, je crois profondément que Dieu nous parle et qu'il nous dirige. Alors donc, après les pâturages verts du Locle, on se trouve jeté aux fauves de Mérin. Si j'ai bien suivi ce qui était dit jusqu'à présent, je crois que j'ai compris. Le problème, c'est comment écouter Dieu. Nous croyons qu'il nous parle, comment comprendre ce qu'il nous dit? Comment nous avons compris qu'il nous invitait à venir ici à Mérin? Moi, j'aimerais retenir quatre étapes. À l'écoute du super berger, donc dans la prière, nous prions et nous nous attendons selon ses promesses que le Seigneur dirige ses enfants. Et dans ce temps de prière, on a posé la question, est-ce que nous devons, après deux étapes, continuer dans un ministère pastoral? À ce moment-là, j'ai été frappé par les textes à la fin de l'évangile de Jean, où Jésus dit à trois reprises, « Prends soin de mes brebis ». C'est quelque chose qui m'a parlé dans la prière, dans une continuité dans ce ministère pastoral. Et ensuite, on cherche également dans la Bible des indications. Et voilà une indication qui me semblait être de venir du Seigneur. Ensuite, il y a aussi, donc après la prière et la Bible, il y a aussi les circonstances de la vie qui nous aide, il me semble, à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Là, je me souviens que c'était en 86, je suis venu, j'étais étudiant à Emmaüs pour un mois ici à Genève pour travailler au kiosque biblique qui avait lieu devant le mur des réformateurs, et j'étais logé chez un certain Bernard Dufour, membre de l'église de Mérin. En 2003, quand nous étions encore au Locle, nous étions invités à participer à une retraite à Valouse, ça continue encore aujourd'hui, où il y avait une grande équipe de membres de l'église de Mérin. Alors quand la commission des ministères nous a rencontrés et a dit, mais parmi les églises qui sont en recherche, il y a l'église de Mérin, je dis, tiens, est-ce que le Seigneur aurait préparé quelque chose? Troisième étape, les circonstances de la vie. Et puis, une quatrième étape, c'est aussi la vie des frères et sœurs dans la foi. Et donc nous avons rencontré la commission qui était chargée de cette recherche au sein de l'Église ici. Et après plusieurs rencontres, nous avons appris leur avis favorable quant à une venue éventuelle ici à Mérin que vous avez confirmée. Voilà donc une recherche, écoutez Dieu. dans la prière, à travers sa parole, dans les circonstances de la vie, avec la vie exprimée des frères et sœurs. Et nous voilà donc depuis une petite année, nos cœurs remplis de reconnaissance envers le Seigneur, parce que c'est vrai, le bon berger nous conduit. Les verts pâturages du Locle et maintenant les eaux paisibles de Mérin.
Merci Roger. Une petite annonce, il reste encore des places pour le camp de Valouse. Nous allons chanter. Et nous nous levons.
Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, et son amour, il est manifesté de plein de manières différentes. Une des manières peut-être les plus extraordinaires et celle qui a eu le plus d'impact, bien sûr, c'est la mort de Jésus à la croix pour chacun de nous. Mais il a manifesté son amour aussi, je crois, dans le fait de pourvoir à un berger pour la communauté et de pourvoir à une communauté aussi pour un bon berger. Alors c'est ce qui nous motive à le louer ce matin encore.
Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Il est vivant, il a hauteur, il a profondeur, et aucune autre créature ne pourra nous séparer. L'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Oh, louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Oh, louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant.
Bienvenue aux enfants. Vous avez vu, je suis descendu. Là-haut, c'est bien, mais là, c'est encore mieux. C'est un désir de Roger. Roger, on a discuté ensemble, on a travaillé sur ce temps, et il désirait pour tous les temps communautaires être à la même hauteur que vous. Donc voilà, nous arrivons un peu au cœur de ce temps d'installation, qui est le temps d'imposition des mains. Alors, c'est un geste symbolique, mais le saviez-vous, dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelait, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait un grand sacrificateur quelque part. Et il y avait une onction d'huile. Mais Roger m'a dit, j'ai une chemise blanche et c'est pas un geste très approprié pour ce jour. Quoique c'était marqué dessus 3 en 1, on aurait pu... Nous allons rester donc dans un temps communautaire et un temps aussi, tu signalais ce terme, un temps solidaire. Parce que comme certains l'ont dit lors des allocutions, nous allons nous engager ensemble à faire un bout de chemin ensemble, sous le regard de Dieu. Donc j'invite les enfants, vous montez sur l'estrade là, puis vous essayez de faire un peu le tour. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous avez dans les mains ?
Des épis de blé.
Pourquoi vous avez des épis de blé à votre avis ? Comment ?
Pour entourer le pasteur.
Pour entourer le pasteur, oui. Mettez-vous bien là, allez pas devant là, derrière la chaire, venez devant là. Voilà, tout le tour comme ça. Ouais. On reconnaît l'esprit pratique féminin là. Voilà les enfants. En fait, on a voulu que vous portiez des épis de blé verts parce que la période, ils sont pas mûrs. Mais c'est un symbole aussi de notre désir de vous voir mûrir, pousser et donner du grain. Voilà, alors on va aussi appeler le couple pastoral, donc Dominique et Roger. Et puis les personnes à qui j'ai demandé aussi pour entourer le couple pastoral. Et donc, on va prier pour le couple pastoral. Je vais passer le micro dans un premier temps aux personnes qui sont autour du couple pastoral et après, on aura un temps communautaire où toute la communauté pourra s'exprimer. Merci bien.
Ô notre Dieu et Père, c'est vrai que nos cœurs sont remplis de reconnaissance ce matin pour la venue de Roger et Dominique et leur famille au milieu de nous. C'est vrai, Seigneur, que souvent nous attendons beaucoup, mais nous voulons surtout nous attendre avec eux, à toi, croyant que tu vas les bénir au milieu de nous, au milieu des communautés chrétiennes de Mérin, et au milieu de cette commune de Mérin, de ses environs et de ses habitants. Merci parce que tu le fais, car tu es vivant, tu nous entends, et tu exauces nos demandes. Nous les bénissons, Roger et Dominique, en ton nom. Amen.
Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as donné Roger et Dominique pour faire un bout de chemin avec eux, pour être le berger de notre communauté. Merci pour tout ce qu'ils nous ont déjà apporté pendant cette année et pour tout ce que nous nous réjouissons de vivre encore avec eux pour toi. Nous te prions pour que tu les aides encore à être vraiment les bergers. Et nous te demandons aussi que tu nous donnes l'amour, la patience et la compréhension pour eux, pour que nous puissions être heureux et faire un bon travail ensemble. Amen.
Seigneur, on veut vraiment te remercier pour la bénédiction que représente pour nous la famille Sewell. Merci pour leur douceur, leur perspicacité, leur sagesse et leur dynamisme. Et on veut vraiment te demander de nous aider, nous, communauté de Mérin, à accorder les ressources à la famille Sewell pour leur vie spirituelle. Et encore une fois, merci de les avoir mis sur notre route. Amen.
Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce cadeau que tu fais à l'église de Mérin, en la personne de Roger, en les personnes de Roger et Dominique. Nous te remercions aussi pour le cadeau de l'église que tu fais à Roger et Dominique. Et je prie simplement que tu leur donnes toute la grâce d'aider cette communauté à marcher, à progresser dans l'unité de la foi. Je te remercie aussi pour ce cadeau, pour cette population de Mérin. Et je prie ainsi qu'il puisse y avoir des interactions dans la cité, au nom du Christ. Amen.
Bien Seigneur, nous voulons exprimer notre reconnaissance en accueillant plus officiellement aujourd'hui Roger et Dominique parmi nous. Merci Seigneur pour leur disponibilité à ton service. Merci Seigneur de savoir qu'ils sont à l'écoute de chacun parmi nous, que ce soit les plus jeunes à l'école du dimanche, que ce soit ceux qui sont engagés dans la vie, que ce soit les aînés, Seigneur, qui sont présents ici et qui ont vraiment besoin d'avoir ce contact, cette relation avec le pasteur. Et nous savons que tu qualifies Roger dans sa tâche, qu'il peut compter sur toi, se reposer sur toi et que tu vas l'animer, le renouveler encore par ton Esprit Saint. Amen.
Seigneur Jésus, merci parce que tu bâtis ton Église, c'est toi qui en es le chef. Et merci pour l'insigne honneur que tu nous fais à chacun de collaborer avec toi dans ton projet de salut pour le monde entier. Et merci parce que tu donnes à l'Église les dons et les ministères dont elle a besoin pour grandir. Et merci pour Roger et Dominique. Merci de les bénir, de les conduire. Et nous voulons aussi bénir en ton nom leurs enfants, qu'ils puissent aussi vivre épanouis et se développer et apprendre à te connaître. Dans ce nouveau lieu, veuille les accompagner aussi. Et nous te demandons de bénir tous les chrétiens, toutes les églises présentes dans la cité ici. Et merci pour leur volonté et de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle de ton amour pour tous les hommes. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur, dans toutes les circonstances dans lesquelles tu les appelleras à te servir, nous voulons rappeler les promesses de ta parole et te demander d'être toi-même au fond de leur cœur, celui qui les conduit et leur sécurité. Amen.
Seigneur, merci de nous avoir donné Roger et sa famille. Merci pour sa disponibilité, sa qualité de prendre contact avec les gens, de mettre chacun à l'aise. Nous te prions que tu lui donnes toute ta sagesse, toute cette énergie pour nous stimuler, pour que notre Église devienne une lumière ici, pour que nous sachions rejoindre les gens qui sont autour de nous, tous ces gens que nous ignorons peut-être, mais qui auraient besoin d'être rejoints et de découvrir qui est le Christ. Merci Seigneur pour son ministère. Amen.
Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, tu vas resplendir dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu but t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est grande, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. péché, non je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Et tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
L'ingrédient principal de la farine, et avec la farine on fait quoi? Le pain. Et vous savez, dans la Bible, on en parle souvent du pain. Et Jésus l'a utilisé aussi souvent. Et je vais vous lire juste un texte qui parle pas mal de pain. Le premier jour de la fête des pains sans levain. Vous voyez, on fait déjà une fête. Des pains sans levain. On n'a pas mis de levain, ils sont tout plats. Les disciples virent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs du repas de la Pâque ?» Jésus leur répondit « Allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire, mon heure est arrivée, c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Et plus loin, au cours du repas, donc de ce repas de la Pâque, Jésus prit du pain, encore du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il la partagea en morceaux, puis il en donna à chacun de ses disciples. Alors, ce que je vous propose, c'est que vu que votre blé, on peut faire du pain avec? Non, il n'est pas mûr. Hein. Alors je vais le garder pour qu'il mûrisse. Vous allez le mettre là et je vous propose un échange. D'accord? Moi je vous propose du pain qui est yes, yes. Et puis celui-là, vous pourrez vous le partager entre vous. D'accord? Alors en partant, vous prenez le panier, puis vous mettez votre blé. C'est du pain hérisson, ouais, tu as tout à fait raison. Et vous faites attention au fil. Voilà. On vous remercie bien d'être venu. Et puis, on pense bien à vous. Vous mettez dans le pot. Voilà. Tu partages bien. Hein? Ouais, ouais. J'invite Jean-Charles et Bernard à me rejoindre pour la Sainte Cène. Je voulais juste continuer ce texte que j'ai commencé avec les enfants. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit la coupe et il dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Depuis très longtemps, le partage du pain et du vin est un repas de rassemblement de ceux qui croient en Dieu. Il y a des liturgies différentes, il y a des manières différentes de s'y préparer, mais toutes ces paroles, toutes ces prières, en fait, demandent à Dieu d'être présent. Alors voici, comme une prière, quelques mots. Le Seigneur vient, une voix a surgi, elle porte la vie et l'espérance. Le Seigneur vient, la parole s'infiltre et ébranle nos vies. Et voici que Dieu s'approche. Le Seigneur vient, les convive à son repas, sont bien heureux. C'est le festin de l'amour car Dieu invite. Il donne la joie et la paix. C'est ainsi, Seigneur, que nous pouvons te louer. Nous te louons pour Jésus vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit, ce souffle qui nous rassemble, malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple. Nous te louons pour ce jour, car tu nous fais entrer dans la joie et la paix. Amen.
Seigneur, merci pour ce repas qui nous rassemble, et c'est un rassemblement. Mais nous reconnaissons aussi que ce repas, comme le blé mûri pour se transformer en pain, tu l'as mûri, ce premier repas. Tu l'as mûri au travers de ta vie, au travers de tes 30 ans de vie. Tu l'as mûri dans la communion avec ton Père. Tu l'as mûri dans la compréhension que ta vie allait être donnée pour nous. Et nous te remercions pour ce pain qui est rompu, que tu as rompu aussi comme signe avant de mourir, de ta vie offerte pour nous, du service de ta vie pour nous. Nous te remercions aussi pour la coupe que tu as donnée pour notre pardon, pour le pardon de nos péchés. Là aussi, tu l'as mûri au travers de ta sainteté et tu l'as mûri parce qu'à la croix, tu as accepté de porter nos péchés. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous offres encore le salut et la grâce. Tu nous offres de nous retrouver les uns et les autres en toi, dans l'Esprit Saint. Amen.
Je demanderais juste au conseil si vous pouvez nous aider pour la distribution. Sur les plateaux, au centre, il y a du jus de raisin, à l'extérieur du vin.
Deux ou trois sont réunis en son nom. Dieu est présent. Il a été dit au début du culte qu'il nous a même précédés. Et c'est parce qu'il est présent qu'on veut continuer à chanter pour sa présence au milieu de nous et pour réjouir son cœur. Chantons, car Dieu est là.
Chantons. Car Dieu est là, poussant des cris de joie. Restons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, la gloire descend sur nous. Son temple ici bas, chantons car Dieu est là.
Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas.
Jésus demeure au milieu de son peuple.
Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Restons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Pour l'amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances et confiance. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis ton arche, ce lâche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillée. Ta fidélité ne dépendra pas des circonstances et confiance. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, écoute sa voix. Il dit que ta foi dépassera toutes les montagnes. Oh bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh bénis l'Éternel, oh mon âme.
L'Éternel pourvoit à nos besoins spirituels, mais aussi à nos besoins matériels, et dans son infinie générosité, il va même bien souvent au-delà de nos besoins. Et c'est dans un esprit de reconnaissance qu'on va faire circuler l'offrande aussi, pour que peut-être ce qui va au-delà de nos besoins, ben, on puisse le partager, et on va continuer avec un dernier chant pendant que l'offrande circule.
est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Et il s'appelle pouvoir le ciel et la terre. À la poussière, l'homme misérable, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Quelle est la terre? Il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être mère de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Il est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre.
Je vais prier pour cette offrande. Dieu notre Père, on te loue pour ta générosité envers nous, pour ton amour qui se manifeste aussi dans les choses matérielles. Merci de pouvoir t'offrir cette offrande ce matin et on te prie que ta main soit posée sur cet argent et qu'avec sagesse il puisse être utilisé pour que ton amour soit répandu autour de nous. Amen.
Nous arrivons au terme de ce culte d'installation et je propose à Jean-Charles de nous apporter la bénédiction. Nous nous lèverons et après nous nous rasseyerons. Il y a des consignes et j'ai encore des choses à vous dire. Voilà, merci.
On peut se lever. Éternel, c'est de toi que nous recevons la bénédiction. Et nous la demandons pour nous-mêmes, pour nos vies. Nous la demandons pour nos familles. Nous la demandons pour cette église. Et ce matin particulièrement aussi pour notre couple pastoral. Dans le nom de Jésus. Amen.
Maintenant, il me reste un temps très périlleux. C'est le temps des remerciements. Et on m'a dit qu'il fallait que j'oublie personne. Il y en a à peu près pour 42 minutes. Je voulais vous remercier, vous tous, qui avez préparé cette célébration en jouant, en chantant, en sonorisant, en nettoyant, en aménageant, en fleurissant, en décorant. Vous tous, les invités, présents et excusés. Vous tous, les membres des autres communautés chrétiennes de Mérin, de Suisse romande, de Suisse, d'Europe, du monde. Vous tous, membres et responsables d'associations chrétiennes ou non. Vous tous, membres et responsables des autorités, enfin, vous, autorités civiles mérinoises et genevoises. Vous, membres de l'Église évangélique de Mérin. Vous, Dominique et Roger. Et enfin, vous, Dieu, Créateur de toutes choses. Que ceux qui n'ont pas été cités lèvent la main. Que que les organisateurs remarquent. Je voulais juste aussi annoncer pour les membres de l'église évangélique de Mérin qu'il y a la corbeille avec le mémo et vous pouvez vous servir d'enveloppe. Ah ouais, fallait me le dire, j'avais pas besoin de le dire. Alors Roger, on est installé ? Installé dans son bureau et à la chapelle, oui, ça oui. Mais la vie d'un pasteur, elle n'est pas que dans les lieux cultuels. J'aimerais bien voir ailleurs comment tu te comportes. Ben justement, ça tombe bien le conseil, t'as organisé un petit challenge là. Le conseil a organisé un apéritif à la salle Vaudagne pour te tester en univers dangereux. Eh oui, prendre un apéro quand on est fêté, c'est pas évident parce qu'il faut se tenir bien, il faut écouter, ne pas renverser son verre, ne pas le vider pour qu'on vous le remplisse. Ça, c'est important. Ne pas se tacher. T'as une belle chemise blanche, je te le rappelle. Ne pas aller aux toilettes. Ne pas bâiller. Donc, je vous invite tous à tester notre pasteur à la salle Vaudagne. Et surtout, vous y allez vite, parce qu'il va bientôt pleuvoir très fort, et que tout se passe là-bas. Et donc, les organisateurs m'ont dit que c'était important que vous y alliez très vite. Il y a 4 bouteilles, donc les premiers sont servis. Alors tous à la salle Vaudagne, merci de votre participation et on se réjouit de la suite là-bas. Alors allez-y vite et merci pour tout. Juste une dernière chose, j'ai encore oublié, vous pouvez, si vous n'êtes pas inscrit, participer au repas. Simplement, il faudrait juste lever les mains parce que la cuisinière est là, elle aimerait bien savoir... Eh bien, tout le monde est inscrit. Ça fait une ou deux personnes, donc ça fait à peu près 10 de plus. C'est bon, merci.